15e pyramide de chaussures avec Handicap International. Plus d'informations, www.handicap-international.fr.
Vous écoutez IDFM, il est 15h.
En Ile-de-France,
écoutez IDFM
sur 98FM. IDFM,
toujours plus proche de vous.
Enfin, Féminoscope est arrivé. On a pris le train et c'était un peu compliqué. Je voudrais vous dire que je félicite ceux qui prennent le train souvent parce que les appareils sont souvent en panne et moi je n'en avais qu'un seul sur cinq pour pouvoir prendre mon billet. Je pense que la SNCF, avec tout ce qu'elle a de moyens, devrait pouvoir regarder un tout petit peu ces machines à billets. Voilà, c'est une réflexion. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir Claudie Beaudoin qui vient nous parler de quelque chose qui nous concerne tous, qui est très très important aujourd'hui, c'est la paix. Elle vient nous parler de la marche mondiale, ou la marche pour la paix mondiale. Et bonjour Claudie.
Bonjour Noël.
Alors le train c'était aussi difficile ?
Non, c'était, j'y suis plus habituée disons.
Ben voilà, pour ceux qui ne savent pas. Alors vous êtes venue nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler de ce sujet qui nous concerne, qui est la paix, non seulement la paix dans nos vies, mais la paix autour de nous.
Oui, alors si je peux me permettre de vous reprendre un tout petit peu.
J'ai dit des bêtises.
Non.
C'est juste, pas une grosse
juste, je voudrais compléter en fait.
Oui.
C'est-à-dire qu'il s'agit d'une marche mondiale, effectivement. C'est-à-dire
oui.
qu'il va vraiment parcourir la planète, toute la planète. Hein. Il y a plus de 100 pays investis dans cette marche. Et donc c'est effectivement une marche mondiale. Et c'est non seulement pour la paix, mais c'est pour la paix et la non-violence.
Et la non-violence, et le désarmement, entre guillemets.
Oui, qui oui. rejoint le thème de la paix. Mais la non-violence, mm-hmm. ça va beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dans cette marche, ce ne sont pas seulement des organisations ou des individus pacifistes qui nous rejoignent, mais tous les gens qui ont envie d'une autre culture de vie, d'une autre attitude de vie, et qui coïncide par exemple avec un grand modèle qui est Gandhi, et un modèle plus contemporain qui est Silo. Mais donc c'est une marche mondiale pour la paix. Et la non-violence. La non-violence étant non seulement une méthodologie d'action, ça peut.
Absolument. Mais oui, c'est pour Gandhi, aussi, c'était aussi.
Exactement.
C'était un état, mais c'était une méthodologie
exactement.
D'action. Oui.
Mais qui était le reflet d'une attitude interne très profonde.
Bien sûr. Mais nous sommes tous prêts et à devenir des saintes. Alors voilà, qu'est-ce qui vous a justement mené, quel est votre moteur? Parce que vous êtes entrée dans ce mouvement, mais vous faites énormément d'autres choses, et j'aurais aimé savoir ce qui s'est passé, puisque nous parlons de la femme et des femmes, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le facteur déclenchant qui, pour vous, a amené une prise de conscience? Qui vous mène là? Qu'est-ce qui vous mène là? Qu'est-ce qui vous motive?
Bon, moi j'aimerais vous raconter, en fait, c'est très anecdotique, mais je pense qu'un très grand nombre de femmes peuvent avoir vécu ce que j'ai vécu lorsque j'avais 24 ans. J'en ai 46, hein. Et donc j'avais 24 ans et j'avais ce que l'on appelle communément avoir tout pour être heureuse. Et d'ailleurs, j'étais fantastiquement heureuse. Donc je venais de donner naissance à mon petit garçon qui maintenant a 21 ans. Donc j'avais un bébé et
adorable.
Le bonheur absolu du bébé. J'avais un mari que j'ai toujours d'ailleurs, on vient de fêter nos 22 ans de mariage. Que j'aimais profondément et que je continue
génial,
d'aimer.
Génial,
j'avais
et qui vous
pas...
aime.
Et qui m'aime.
C'est ça, en plus c'est la réciproque qui est intéressante aussi.
Donc j'avais pas de problème d'argent, j'avais pas de problème de travail. Enfin, je vous dis, j'étais dans la situation de ce qu'on appelle tout pour être heureuse.
Magnifique.
Or, on croit souvent qu'on milite par compensation ou pour
c'est
compenser.
C'est important ça, voilà. De dire ça. Oui.
Et alors, à 24 ans, un matin, j'ouvre les yeux sur mon plafond et je me dis, et alors? Et maintenant? C'est-à-dire cet immense bonheur complet. Qui d'ailleurs n'a pas cessé, tous ces éléments n'ont pas cessé, étaient insuffisants. Alors certains y trouveront de l'orgueil à cette exigence de vie, mais ça n'allait, je savais que ceci n'allait pas suffire à ma vie, et surtout que cette vie allait se passer exactement comme peut se dérouler la vie d'une femme, c'est-à-dire s'occuper avec amour de ses enfants, de son mari, de son métier, mais que c'est pas ça qui épanouit, qui remplit de sens une vie, ça ne suffit pas.
Vous aviez conscience de ça.
C'est-à-dire j'ai pris conscience ce matin-là au réveil, j'avais 24 ans, et je me suis dit, et alors et maintenant?
Oui, vous faites partie des personnes qui déjà ont cette préscience.
Voilà, c'est-à-dire je
en
crois qu'il y a des
tout,
gens
mais comment
qui justement
aller plus loin.
Se rebellent parce qu'ils vivent une situation extrêmement difficile, ils ont bien raison de se rebeller. Il y a les gens qui sont révoltés parce que cette société nous donne mille occasions de nous révolter.
Oui, sûrement.
Et puis il y a des gens qui justement un jour au milieu de tout ce confort dont on nous promet qu'il est le bonheur et qui l'ont, enfin vraiment, et je ne le nie pas, et je suis toujours mariée, j'aime toujours mon enfant, mais qui se rendent compte que ce bonheur sera jamais complet s'il est seulement pour vous. Enfin,
c'est ça, c'est
d'une
partagé.
Part, d'une
c'est
part, partagé. Donc ça du point de vue social, et du point de vue plus existentiel, c'est-à-dire vous mourrez demain, et mais qu'avez-vous réalisé? Alors certes, une vie remplie d'amour, mais ça ne suffit pas, c'est comme si l'amour individuel proche ne suffisait pas.
Oui.
En tout cas, ce matin-là, j'ai écrit des pages et des pages de questions, pour le coup existentielles, et qui n'étaient pas compensatoires, ça je le comprends aujourd'hui, mais qui n'étaient pas compensatoires d'une situation qui n'allait pas bien.
Oui.
Ce qui m'a donné beaucoup de
force
dans l'engagement.
Vous aviez envie, au contraire, de partager quelque chose qui était votre bonheur et de pouvoir agir ailleurs en créant du bonheur.
Il y avait deux choses.
De l'éveil.
Une chose qui était la situation sociale. Comment peut-on jouir pleinement de son bonheur quand le monde est à feu et à sang, déjà? Ça d'une part. Et d'autre part, quelque chose, un appel, quelque chose de plus profond. C'est-à-dire, tout ce bonheur-là est un bonheur du quotidien. Et plus le quotidien est agréable, évidemment, plus la vie est agréable. Mais il y avait, pour moi, en tout cas à ce moment-là, un quelque chose de plus qui devait se manifester. Un quelque chose de plus très puissant qui devait pouvoir s'exprimer, non seulement s'exprimer, mais trouver une voie d'action.
C'est ça qui se dégage dans beaucoup d'émissions, c'est que les femmes qui viennent ici, si elles donnent, elles ont reçu, mais elles ont envie de partager.
Exactement.
Et c'est au-delà de leur bonheur personnel, à partir de ce, disons, ce tremplin. On peut faire de l'action au niveau humanitaire à partir de désespoir et d'aller plus loin aussi. Mais vous, vous partez à partir du bonheur.
Voilà.
Et ça, c'est un exemple qui est très important parce que beaucoup de gens peuvent penser avoir le bonheur à travers une vie matérielle bien remplie, une vie professionnelle, des enfants, un homme qui vous aime ou une femme qui vous aime. Mais en fait, il y a quelque chose qui est l'au-delà de cela.
Exactement.
Et c'est ce partage.
Exactement.
Alors, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui et c'est pourquoi vous êtes petit à petit venu à avoir des actions qui sont des actions qu'on pourrait appeler idéalistes.
Alors très idéalistes, c'est-à-dire de même qu'il n'est pas du tout facile d'exprimer dans son milieu, dans son entourage, de dire voilà j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse mais ça ne me suffit pas. De même il n'est pas du tout évident tout au long d'une vie de réclamer un monde meilleur, un monde plus profond, un monde non violent, une attitude non violente. Ce sont des chemins, c'est-à-dire les choses n'arrivent pas du jour au lendemain, même si des fois il y a des flashs de révélation comme ce matin-là que je vous ai raconté. Après c'est un chemin de recherche. Il se trouve que par anecdote, deux jours après, j'ai reçu un courrier qui m'invitait à une internationale humaniste. J'y suis allée et j'ai trouvé là ce que j'y cherchais, parce que j'y ai trouvé à la fois une action sociale, une action vers les autres, une action multiple et variée dans tous les domaines de l'activité humaine, et un très très profond, très fond spirituel qui m'a épanouie d'année en année.
Eh ben, on va parler de tout ça parce que aujourd'hui, alors reformuler ce qu'est exactement cette marche mondiale pour la paix et la non-violence. On va revenir sur tous les points qui concernent cette marche, puisque je crois qu'il est important que nous partions de vous, parce qu'on vient ici, les invités sont là pour parler d'elle, puisqu'elle communique avec d'autres femmes et avec tout le monde, avec les hommes et les femmes. Et je pense que vous allez pouvoir développer point par point qu'est-ce que cette marche mondiale pour la paix et la non-violence.
Alors, il y a maintenant 2 ans, un des organismes, une des associations humanistes qui s'appelle Monde sans guerre et sans violence, lance un projet que nombre d'entre nous estimons alors totalement utopiste, qui est une grande marche mondiale pour la paix et la non-violence. Il nous a fallu 1 an pour rassembler un certain nombre d'associations et d'organisations autour de cette initiative. Et il y a maintenant presque un an, puisque c'était le 15 novembre, à Punta de Vacas, au cœur des Andes, on fait un lancement officiel de cette marche, avec la presse d'ailleurs sur place, c'est-à-dire là où va finir cette marche mondiale. Donc cette marche mondiale, elle est... Je vais tâcher d'expliquer quelque chose qui est un petit peu nouveau, c'est-à-dire on a quelques modèles de la non-violence et de l'action non-violente, notamment avec Gandhi et Luther King, qui sont les plus récents et les plus connus surtout, parce qu'il y a aussi de grands leaders de la non-violence, notamment en Afrique. Mais quand on parle de marche mondiale, on y associe notamment la marche du sel de Gandhi, certaines marches pour les droits civiques de Luther King. Là, c'est un concept nouveau, c'est-à-dire on a beau dire marche mondiale, c'est pas seulement une marche, c'est-à-dire pendant 3 mois, du 2 octobre qui arrive là, de octobre 2009 au 2 janvier 2010, partout dans le monde vont se passer durant 3 mois un très grand nombre d'activités dans tous les domaines de l'activité humaine, culturelle, sociale, artistique, politique, tout ce que vous pouvez imaginer, universitaire.
C'est événementiel, ce sont des événements qui
ce
vont se passer.
Ce sont des gros événements et des petits événements. C'est-à-dire, l'idée c'était de faire converger dans une action de 3 mois, simultanément sur toute la planète, individus comme vous et moi, grosses associations ou l'ONU. C'est-à-dire vraiment à tous les niveaux de l'activité humaine et de la responsabilité humaine, parce que nous on estime que chacun d'entre nous est responsable.
Mais
de
nous
ce qui
sommes
se passe.
Responsables. Nous, dans nos pays, nous avons le droit de vote. Bon, mais ça nous limite. Mais et parce que nous n'avons pas d'élus qui prennent en compte la non-violence. Et nous n'avons pas d'élus.
Enfin, ici en France,
nous avons des écologistes, bien sûr, qui prennent en compte la planète.
Voilà.
Beaucoup de gens, effectivement, il y a l'Alliance pour écologistes pour la indépendante, les écologistes, mais on ne parle ni de non-violence, ni de spirituel.
Voilà.
Alors, et de désarmement, sûrement pas.
Noël, il y a 50 ans, ça n'existait pas, un ministère de l'écologie. On peut espérer que dans quelques années, et rapidement si possible, on ait un ministère de la non-violence ou un ministère de la paix.
Mais c'est important de dire que nous sommes des citoyens et que c'est à nous.
Absolument,
c'est
absolument.
À nous de demander.
D'autant qu'on
là,
on appelle utopie des choses qui ne sont déjà plus utopiques dans certains pays. En Bolivie, par exemple, Evo Morales, grand pacifiste et grand spirituel s'il en est, a quand même permis que dans la constitution bolivienne entre comme loi le non-recours à la guerre pour résoudre les conflits. Donc la guerre est devenue anticonstitutionnelle
c'est
en Bolivie, par exemple.
Ça, c'est
il y a certains
important.
Autres pays qui avaient déjà fait... Là, on est sur le plan politique, mais c'est-à-dire parfois, on nous envoie... On nous renvoie une image d'utopiste, là où certaines utopies sont déjà gravées dans les stèles de loi. Donc, c'est pas si utopique que ça, c'est non, une volonté humaine.
Oui, mais voilà, cette volonté peut être décidée de négocier, il y a 60 ans qu'Israël, Palestine, ça continue, qu'on assassine tous les jours des gens et qu'on en martyrise d'autres, et on ne discute pas. Il n'y a pas de terrain véritablement où des pays ou des sages viendraient en disant « Écoutez, messieurs, maintenant, vous allez vous entendre, discuter. Les armes n'ont pas à assassiner des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire que d'assassiner des enfants ? C'est monstrueux. Pour pouvoir résoudre un problème que des conversations et un échange pourraient permettre de résoudre. »
Exactement. D'ailleurs, je vais rebondir tout de suite avec un des exemples d'actions. Alors, en même temps, je vous racontais que la marche mondiale, c'est des actions du 2 octobre au 2 janvier.
Oui.
C'est pas tout à fait comme ça. Les actions, elles ont démarré déjà depuis un an. C'est-à-dire, d'accord, les gens ont été tellement enthousiastes de cette initiative qu'a permis qu'elle existe, parce que beaucoup, elle a été relayée énormément.
Donc, ce sont des associations,
associations
composées
des
personnes,
individus, des ministres, des présidents.
Rejoignent ce mouvement.
C'est absolument tout type de personnes, des universités, oui, des scientifiques.
Et son fil conducteur, il
alors,
est passé
comment ? Son fil conducteur, c'est donc cette marche, avec une date, des dates encadrées, du 2 octobre au 2 janvier, avec effectivement un groupe de marcheurs, entre guillemets marcheurs, parce qu'ils vont marcher, pédaler, voler en avion, ramer.
Des
enfin,
gens qui des
voilà,
personnes qui se déplacent.
Un groupe qui va faire le déplacement, effectivement, depuis la Nouvelle-Zélande. Ils vont partir le 2 octobre à 10h30 de Nouvelle-Zélande.
Mais un groupe mouvant.
Avec un vrai groupe.
On ne peut pas faire 40 000 km.
Non, justement, on l'a même limité parce qu'on a vu que c'était des dépenses extraordinaires. Donc on l'a limité à une trentaine de personnes et un noyau après qui va faire des parties, des petits bouts. Donc on a un départ de Nouvelle-Zélande le 2 octobre à 10h30, heure locale, ça veut dire 11h30 à Paris, et qui va parcourir le monde, mais sur un tronçon, parfois en se divisant sur deux tronçons, jusqu'au cœur des Andes. Maintenant, c'était impossible sur 3 mois de parcourir le monde entier, s'il y a les avions, etc. Mais... Donc il y a plein de rameaux, de branches, de tronçons, de affluents qui vont aller rejoindre certains tronçons. Si je vous donne un exemple, une partie de la marche de ces marcheurs va être à Berlin pour accueillie par le sommet des prix Nobel de la paix, tout en même temps qu'elle sera à Paris. Et donc ces deux branches vont aller ensuite se rejoindre, l'une passant par le nord de l'Europe, l'autre par Genève-Milan, vont aller se retrouver ensuite à Milan.
Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que ce mouvement est universel. Et comment se passe la coordination ? Je ne vais pas vous mettre sur ce sujet, mais vraiment, c'est assez étonnant.
Vous rentrez sur un thème de stress.
Oui, c'est ça.
Ma foi, ça aussi, c'est nouveau et c'est une invention parce que les différentes associations du mouvement humaniste aident beaucoup en cela parce qu'elles ont l'habitude de s'inter-organiser entre pays, entre continents. Une agence de presse aide à ça aussi, qui a été montée pour l'occasion, qui est une agence de presse qui relaie exclusivement les nouvelles qui vont dans ce sens de la paix et de la non-violence, qui est aujourd'hui sur tous les continents et relayée par un très grand nombre de journalistes. Mais l'organisation est très compliquée, enfin
gigantesque, oui,
et c'est très compliqué. C'est souvent relayé par continent déjà, et puis par pays, et puis on a des volontaires qui font le relais justement depuis un pays ou depuis une région. Par exemple en France, évidemment je vais plus parler de la France ici, même
bien
si moi
sûr,
je suis chargée des relations internationales, mais en France on a plusieurs actions sur Paris, Rouen, Nantes, qui constituent un pôle on va dire, parce que le pôle le Lyon, par exemple, va rejoindre la marche à Genève.
Oui,
donc
c'est pas
Lyon
loin, ça,
travaille
c'est
plus avec Genève, par exemple.
Oui.
Et Toulouse, Perpignan, eux travaillent plus avec Barcelone, parce qu'ils vont rejoindre la marche à Barcelone. Et Marseille hésite encore, parce qu'ils sont entre Milan et Barcelone.
Oui.
Donc je pense qu'ils vont rejoindre plutôt Barcelone, en accueillant quelques marcheurs qui viendront de Milan.
Et Nice,
donc,
alors il faut les mettre...
Nice, il y a un tout petit peu de gens qui bougent, ça a commencé très, très récemment.
Oui,
mais
ils dorment,
on espère
c'est
que,
normal.
Ils dorment au soleil cet été, voilà, là.
Alors, on va faire juste une petite respiration musicale pour repartir sur l'ambiance. Alors ça, c'est une musique que Claudie nous a amenée.
Alors, je vous ai amené cette musique parce qu'il est de René Aubry, parce que René Aubry fait partie des personnalités, il y en a des milliers dans le monde, beaucoup moins en France. Il y a quelques personnalités qui ont adhéré à cette marche mondiale pour la paix et la non-violence en France.
Mais aujourd'hui, ils vont tous adhérer.
Voilà. Et René Aubry, pour ceux qui ne le connaîtraient pas beaucoup, est un musicien que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup depuis longtemps. Je fais de la danse aussi. Et notamment, il est un des musiciens de Caroline Carlson, qui a aussi adhéré à la marche mondiale. Et il nous a fait la grâce et la gentillesse de nous offrir ses musiques durant la marche et de pouvoir les diffuser
librement
oui. et en rappelant qu'il était absolument favorable à cette initiative.
D'accord, tout mais ça... alors la SACEM ne fonctionne plus ?
Oh si, la SACEM continue de fonctionner. disons, ici elle va fonctionner par exemple, mais par exemple sur nos sites,
oui, pas sur les
c'est
sites,
libre de droit. Voilà.
Ah, merci René Aubry. Alors voilà, on va écouter sa musique. Thank you. Voilà, on a écouté cette jolie musique qui nous a détendus. Moi, après ma course dans le train, je suis ravie de me détendre avec cette guitare hein, qui m'a fait beaucoup de bien. Alors voilà, Claudie, on parlait de la violence et de la non-violence. Il y a dans la constitution, je dirais, de la marche, il y a des points qui sont à identifier et à reconnaître et à accepter potentiellement. Est-ce que ces points sont à appliquer catégoriquement ou est-ce que les gens qui viennent peuvent simplement s'en approcher ? On va pouvoir les nommer pour que chacun, chaque femme et chaque homme qui nous écoute puisse prendre conscience dans son cœur qu'il y a des points qui peut-être, avec lesquels, s'ils sont en révolte, ils ne peuvent pas pour l'instant coïncider, mais que ça n'est qu'une question de recul et de temps.
Exactement, alors, vous le présentez très bien Noël, parce que il y a toujours plusieurs plans d'engagement en vérité. Je crois que la marche mondiale, c'est d'abord une marche dans son cœur. Elle n'a plus rien de mondial, elle est très très centrée, c'est une marche dans son cœur et ça chacun le fera en son âme et conscience. Et personne ne peut dire à l'autre, personne ne peut exiger de l'autre et personne ne peut évaluer de l'autre son chemin de non-violence. Ça, ça doit être très clair déjà. Avec une tolérance qui ne soit pas seulement une tolérance de mots et une tolérance théorique, mais un vrai respect qu'un chemin intérieur, c'est un chemin intérieur. Maintenant, dans le monde qui nous entoure, on assiste à des désastres, mais c'est plus que des désastres, c'est des barbaries,
oui.
Vraiment des barbaries,
oui, oui.
Et qui sont quand même
sous nos yeux, qui sont
sous
extrêmement
nos yeux, absolument
choquants.
Sous nos yeux. Et il y a quand même des individus, parfois qui sont derrière un écran qui s'appelle État ou une institution puissante, qui vont décider de vie humaine, mais à une échelle extraordinaire. Je ne vais pas rappeler Hiroshima, je n'ai pas très envie d'évoquer ça aujourd'hui, mais par exemple, toutes les associations, regroupements de marche mondiale, le 6 août dernier, ont évoqué, fêté, rendu hommage à toutes ces milliers et milliers de victimes, où il y a quand même des gens qui ont lâché ces bombes, des gens qui ont reçu des ordres, un État qui l'a décidé. Bref, tout ça pour vous dire que cette marche mondiale ne se voulait pas une marche gentillette et naïve, justement, mais elle met en avant des revendications très fortes, politiques évidemment, politiques au sens noble du terme. C'est-à-dire politique, ça veut dire la vie dans la cité.
Oui.
Aujourd'hui, notre cité, c'est la planète. On le sait, ça devient la mode grâce à l'écologie, de se sentir sur une seule et même planète.
Je dirais grâce au danger que représentent les polluants qu'on a déversés sur notre belle terre.
On est d'accord, mais par exemple, par rapport à l'écologie, moi j'appelle à tous les écologistes qui pourraient nous écouter d'aller plus loin dans leurs propos. C'est-à-dire, j'ai vu comme des millions de gens ce très beau film, très esthétique film de Home par exemple. Comment peut-il alerter si fort sur les risques de la planète sans dire aux gens qu'il y a au-dessus de nos têtes des milliers de missiles nucléaires qui pourraient détruire la planète en un instant ? C'est-à-dire, oui, la planète est polluée, mais oui, elle est en danger, il y a un couperet au-dessus de nos têtes. Donc, un des premiers et des premières revendications de la marche mondiale pour la paix, c'est évidemment le désarmement nucléaire à l'échelle mondiale. C'est comme dormir avec sous son oreiller un missile nucléaire qui peut détruire toute la planète. Vous vous rendez compte à quelle monstruosité on est arrivé aujourd'hui ?
On est allé, oui, c'est un état de folie, c'est-à-dire qu'on a des armes pour, en espérant que l'autre ne s'en serve pas, et on espère qu'on ne s'en servira pas, mais on les accumule, c'est sûr.
Moi je tiens à m'arrêter un instant sur ce sujet parce qu'on me répond très souvent, et des gens comme vous le disiez, très bien intentionnés, mais qui par exemple vont hésiter à adhérer avec ce point, avec ce fameux thème que les médias nous ont rebattu les oreilles de dissuasion. Mais imaginez, vous habitez dans une allée de petits pavillons agréables et vous avez des petits enfants de 4 ans qui courent dans la cour. Et alors l'un de vos voisins a très peur de se sentir agressé ou qu'on vienne le cambrioler et il commence à mettre des bulldogs ou je ne sais quel chien très dangereux qui protège sa maison. N'est-ce pas ? Mais qui risque à chaque instant de mordre les mollets et plus de vos petits bambins gambadant parfois loin du jardin et s'échappant dans l'allée. Et alors, pour répondre à ces bulldogs, on va mettre nous des lions dans notre cour.
Oui, c'est ça.
C'est exactement ce principe, c'est-à-dire pour prétendre
qui
protéger,
n'ont rien demandé, les lions.
On met des molosses aux dents vénéneuses et on risque la vie.
Allez, les molosses, non, moi je suis pour. Non, alors là, je ne laisserai pas dire dents vénéneuses pour les molosses parce que je considère que ce sont les humains qui rendent les chiens méchants et non pas que les chiens le sont naturellement.
Exactement. Non, je suis d'accord avec vous complètement.
Si on refait un petit tour.
Je suis d'accord avec vous. La violence comme la non-violence, c'est une éducation.
Et puis, absolument, si les chiens et les animaux sont violents, c'est vraiment parce que les hommes le rendent violent. Parce qu'eux n'ont aucunement l'intention de faire mal.
Je suis absolument d'accord avec vous.
Donc, c'était pas le bon exemple, mais on va revenir sur un bon exemple là, en parlant des points. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise de conscience.
Exactement. Hein,
que tout ce que vous disiez sur cette marche, cette marche nous appartient. Elle appartient à chacun, aux femmes qui sont à la maison, celles qui travaillent, aux hommes.
Exactement.
Comment pouvons-nous nous rendre possesseurs d'une action dans la marche? Parce qu'il s'agit de prendre une prise de conscience intérieure, mais il s'agit d'agir aussi. Comment des femmes et des hommes peuvent aujourd'hui, en vous écoutant, agir avec vous? Parce que même s'ils ne sont pas d'accord sur tous les points, ils sont d'accord sur une majorité de points, et ce ne sont pas les points éventuellement qui sont en suspens qui vont faire qu'ils n'adhéreraient pas.
Alors déjà, on va rappeler les cinq points. Le premier, c'est le désarmement nucléaire à l'échelle mondiale. Le second, c'est le retrait immédiat des troupes étrangères des territoires occupés.
De tout territoire occupé.
De tout territoire occupé. Ensuite, la réduction progressive et proportionnelle de l'armement conventionnel, évidemment. On a mis le premier point nucléaire parce que c'est l'urgence. Enfin, la signature entre pays de traités de non-agression. Tout à l'heure, j'ai cité la Bolivie, ça c'est le modèle suprême. Mais ça ne se fera pas tout de suite, on n'est pas naïfs. C'est un processus, mais il faut aller vers ce processus. Et enfin, le renoncement par les gouvernements à utiliser les guerres comme moyen de résoudre les conflits.
Ça, moi, je l'aurais mis en premier. Vous voyez, parce que ça,
c'est
réalisable tout de suite.
C'est réalisable tout de suite et... Il y a quand même de bons indicateurs. On peut se féliciter. Il y a quelques bons indicateurs. Si on observe l'actualité, il y a quelques gouvernements qui sont en train de prendre position. Et rien de moins que Obama et les États-Unis qui nous fait un grand changement cette année. On verra jusqu'où il va.
Oui, jusqu'où il peut.
On verra jusqu'où il
peut aller.
Il y a un an, on n'en rêvait même pas.
Bien sûr.
La Bolivie que j'ai citée tout à l'heure, le Costa Rica. Enfin, il y a différents exemples. En revanche, il y a des exemples contraires et hélas, la France s'illustre très très mal. Elle nous fait sa grande pub de vente de armes en Amérique latine. L'Amérique latine est aujourd'hui dans un processus de convergence au contraire. Ils sont en train de se souder les uns les autres, les pays, je parle de tous les pays d'Amérique du Sud, et en train de défendre leurs ressources, leur histoire, leur culture, et on vient leur faire croire qu'ils sont menacés, qu'on va les attaquer, qu'il faut qu'ils se défendent, qu'il faut qu'ils montent des boucliers antinucléaires, enfin... Bref, on va armer et demander à ces pays qui sont en train de se reconstruire, comme le Brésil, qui ont des besoins en éducation et en santé qu'on ne peut même pas imaginer à moins d'être sur le terrain, et j'y suis allée, j'en parle d'expérience, on va leur vendre pour des milliards et des milliards d'armes nucléaires. C'est honteux, honteux.
Oui, ça c'est comment défendre son beefsteak en pesant sur la vie des autres. Mais bon, c'est parce que ce système, actuellement, nous sommes dans cette trajectoire. Mais nous pouvons en sortir. Nous sommes très nombreux à prendre conscience que ça n'est pas la bonne voie, que nous ne souhaitons pas la mort de qui que ce soit. Et comment peut-on décider, des chefs d'État décident de la mort d'enfants, d'hommes et de femmes, et sans parler de tous les estropiés qui en sortent, parce que quand on voit ce qui s'est passé en Palestine, à Gaza, que des chirurgiens veulent absolument aller opérer pendant qu'il y a des gosses qui sont mutilés très très gravement, il faut se mettre ça en face de soi.
Exactement.
Donc c'est une prise de position peut-être un peu simpliste, mais je crois qu'il faut que nous revenions à la base même, c'est que nous avons encore un droit de vote et nous sommes des citoyens.
Exactement.
Donc les points que vous avez développés, je crois que beaucoup sont pour la disparition de l'arme nucléaire.
Exactement.
Mais que
c'est en France.
Bien entendu. Oui. Et même l'utilisation du nucléaire, tout le monde a, je crois, conscience que c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que nous avons de l'électricité, mais malheureusement, on préfère l'éolien. Mais il y a une prise de conscience qu'il faut que nous ayons, c'est que nous sommes décisionnaires. Moi, je le dis souvent dans cette émission, et ne perdons pas conscience que nous pouvons changer quelque chose à nos vies. Et là, à travers ces points, par une prise de conscience, chacun peut changer quelque chose dans sa vie.
Exactement. Et pour alors, vous répondre avez des... à votre deuxième oui. question de comment participer...
Parce que vous n'avez pas tout développé, là.
J'ai développé les 5 points.
Les 5 points, d'accord.
Qui sont les 5 propositions avec lesquelles on va aux ambassades, aux institutions, aux ministres, au gouvernement, et dans lesquelles tout un tas de gens, en tout cas quand je dis on va, moi je ne fais pas partie de ce, sur ce, je suis sur une autre fréquence dont je vais vous parler.
Oui, bien
après,
sûr, mais, chacun sa place.
Voilà.
Oui, bien sûr.
En tout cas, les revendications, disons, politiques au sens le plus global du terme, sont ces 5 points et ces 5 revendications. Donc, et en même temps, c'est une exigence qu'ont posée toutes les associations qui ont lancé cette initiative, c'est qu'on ne peut pas prétendre à marcher pour la paix et la non-violence sans être d'accord avec ces points-là. Ça, c'est une première chose. Après, comme vous le disiez, effectivement, dans l'expérience personnelle, on voit que, qu'une expérience ou une autre peut vous amener à être d'accord globalement avec la paix et la non-violence et à avoir quelques réticences à, par exemple, le retrait immédiat des troupes étrangères des territoires occupés, par exemple, ou la signature de, entre pays de traité de non-agression. Enfin bref, pour le vécu des uns et des autres, il peut y avoir quelques réserves. Chacun verra s'il accepte, malgré ses réserves, de participer ou pas.
Oui.
Parce que la marche mondiale, en vérité, c'est un assemblage, mais vraiment un puzzle qu'on ne peut à peine se représenter, de milliers et milliers et milliers d'initiatives.
De millions, à ce moment-là.
Voilà, mais voilà. Vraiment, c'est-à-dire oui. qu'il y a plus de 100 pays concernés, plus de 300 villes concernées, un très grand nombre d'associations, des milliers de personnalités du monde, de la culture, de
mais disons
du
que c'est
spectacle.
Un éveil. Hein. C'est un éveil et un ras-le-bol, parce que depuis déjà un moment, on sent très bien qu'on va dans le mur,
exactement.
Que ce soit écologiquement,
oui.
Économiquement, notre système arrive au bout. De son
on arrive
exercice.
Au bout. Il faut prévoir autre
voilà.
chose maintenant.
Donc voilà, et ça, ce sont les prémices de l'autre chose.
Exactement.
Acceptons d'être dans cette marche qui est la marche vers ailleurs.
Exactement. Nous, on ne prétend pas que cette marche, elle va apporter la paix. On prétend que c'est l'objectif de cette marche, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est créer conscience.
Voilà, créer de la conscience.
C'est réveiller des consciences,
oui,
parce
oui,
que
oui,
certains
oui.
étaient, avaient cette conscience et se sont endormis. C'est créer conscience pour ceux qui ne se rendent pas compte, parce qu'on nous noie de choses et la vie elle-même nous fait courir.
Mais tous ceux qui sont dépassés, qui sont
voilà.
la majorité,
voilà.
parce que on décide pour nous
voilà,
et on n'a pas envie
exactement.
Que soit décidé pour nous d'aller tuer qui que ce soit.
Exactement.
Hein, en se réveillant le matin.
C'est aussi dire à tous ceux qui sont déjà dans cette fréquence, parce que nous on a osé cette grande initiative en se disant mais nous sommes déjà des millions. En vérité.
Tout à fait. Maintenant,
c'est-à-dire
il faut ramener
parti à quelques centaines de gens avec cette initiative, mais on s'est dit nous sommes déjà des millions. Donc la prétention de cette marche, quand on dit que c'est créer conscience à ceux qui sont déjà dans ça, qui sont pas tout seuls, à ceux qui sont endormis de se réveiller un petit coup, et à ceux qui hésitent sur des points de vue et des positionnements à prendre, de leur donner des éléments pour pouvoir le faire.
Bah, à savoir que tous ceux qui pensent, ne serait-ce que quelques points déjà, et qui se réveillent le matin, ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils sont importants, qu'ils sont peut-être une goutte d'eau dans la mer, mais que c'est l'océan qui est important parce qu'il faut le rejoindre et ne pas croire qu'on est séparés.
En
nous
même
ne
temps,
sommes pas
vous
séparés.
Vous rappelez pour l'Irak, le nombre de gens qui sont descendus dans la rue manifester pour la paix, c'était extraordinaire. Il n'y avait pas eu de précédent pour ça. Et c'était extraordinaire parce que c'était dans beaucoup de pays du monde.
Bah, et bien
et
sûr,
là, il n'y a eu aucune initiative, rien. C'était une réponse spontanée des gens pour la paix, justement. Donc, il y a déjà eu des manifestations de ça. Donc c'est aussi sur ça, par exemple, qu'on a pu s'appuyer en disant les gens descendent spontanément aujourd'hui dans la rue manifester pour la paix.
Donc, mais c'est ça, et c'est donc réunir toutes ces grandes volontés d'agir ensemble. Alors on va revenir là-dessus, on va faire un petit instant musical très court, parce que on a beau essayer de parler vite pour donner le maximum de renseignements, on n'y arrivera pas, on refera une autre émission
voilà.
et il y en aura peut-être une autre avec Joël, parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Voilà.
Thank you.
Voilà, on revient après cette jolie et tendre musique qui nous a encore détendu beaucoup plus et qui nous fait sentir qu'il y a de la douceur. Justement, on était en train d'échanger hors micro sur la violence qui aussi est en nous. Quand nous sommes en colère parce que le voisin fait du bruit, que la voiture ne marche pas, que bon, tout le système ne marche pas, il y a cette violence qui est en nous et que souvent nous retournons contre nous. Et ça, c'est important d'en prendre conscience, Claudie, aussi.
C'est très, très important. Vraiment, dans cette marche, ça a une dimension très importante. La non-violence n'existera pas à l'extérieur de nous tant qu'elle ne sera pas un chemin à l'intérieur de nous. Ce que l'on fait à l'extérieur, une projection, ça part depuis l'intérieur de nous.
Ouais.
Donc la non-violence, c'est un choix d'abord intérieur, indépendamment là de toute croyance. Vraiment, ça part d'un sentiment, d'un rejet déjà de la violence, mais aussi d'un sentiment que lorsque je suis violent, et tout le monde est violent, hein, parce qu'on est né dans ce monde, mais je me détruis moi, c'est-à-dire, y compris quand je crois que je me venge ou que je renvoie à un acte violent, c'est au final moi que je détruis, au moins énergétiquement parlant, c'est-à-dire où je me divise. Si je fais quelque chose à l'autre que je ne voudrais pas qu'il me fasse, je me divise. C'est-à-dire qu'au fond, on est interlié.
Oui. Nous sommes
au sud de l'Afrique, il y a une communauté Umbutu qui a un symbole extraordinaire de non-violence que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que les Umbutu se croient, ont comme concept de l'humanité, comme une espèce de gigantesque toile d'araignée. C'est-à-dire où vraiment tous les êtres humains sont reliés les uns aux autres, comme dans une très gigantesque toile. Et si on enlève un être humain, évidemment on fait vibrer toute la toile et on crée un problème dans la toile.
Ah, ça c'est sûr.
Et avec la vengeance, on enlève un autre bout de la toile. Ouais. Et alors on met encore plus en danger cette toile d'araignée. Je vous dis ça parce qu'il y a eu un très très beau forum dans le cadre de la marche mondiale sur la non-violence en Italie, notamment à Milan, puis reproduit d'ailleurs à Rome, auquel j'ai participé, et où le grand sujet de débat était le thème de la vengeance. Je voudrais dire un mot sur la vengeance parce que justement on a écrit plusieurs textes et préparé plusieurs, là encore, dans le but de créer conscience. La vengeance, à un moment donné du processus de l'humain, elle a été un progrès. C'est-à-dire que le premier texte qu'on va trouver sur la vengeance, c'est 1700 avant Jésus-Christ. C'est sur une stèle qui d'ailleurs est au Louvre à Paris, le Code d'Hammurabi. Et ce texte était un premier texte de loi qui accordait le droit de se venger à quelqu'un contre celui qui vous avait fait du mal.
Oui, individuellement, parce qu'avant
c'était... Pour œil, dent pour dent, vous savez, ça remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais en quoi c'était un progrès ? C'était un progrès parce qu'avant, n'importe qui pouvait envahir n'importe quel village et détruire de façon arbitraire tout sans avoir affaire à la loi.
Donc, le système était un peu différent. Il y a eu un moment où c'était non pas l'individu, mais le groupe qui payait.
Exactement.
C'était œil, dent pour dent, mais ça n'était pas l'individu qui avait agi, qui payait, mais son groupe.
Voilà.
Donc, on désignait quelqu'un qui allait payer.
Là,
forcément la même. Donc ça voulait bien dire quand même que c'était le groupe et que le groupe est interrelié. Mais là, c'était beaucoup plus limité.
Voilà. Là, on limitait, légiférait. Et à ce moment-là, cette vengeance, entre guillemets, était un grand pas, une grande avancée. Le problème, c'est ça remonte à 3700 ans.
Oui,
et
ça,
on n'a pas beaucoup
évolué.
Avancé.
On a évolué.
Pas beaucoup parce
évolué,
que dans la vie quotidienne, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui le croient. Et ce n'est pas du tout un jugement. On le croit parce qu'on est né dans ce contexte. Si vous regardez la cinématographie, par exemple, la vengeance est encore extrêmement exacerbée.
Tout à fait, oui.
Bon. Donc, un pas de non-violence va être à l'intérieur comprendre qu'est-ce que je vais gagner à me venger ? Qu'est-ce que je vais gagner en termes d'unité intérieure ? C'est-à-dire, est-ce qu'après je vais être mieux ? Et les gens peuvent penser, et même l'avoir vécu, que oui, sur le moment, j'étais mieux. Mais dans ma construction de vie, et au moment où je meurs, est-ce que j'étais mieux ? Qu'est-ce que j'ai construit ? Je ne construis pas ni avec la violence, ni avec la vengeance. Il n'y a pas de construction qui reste de ça. Tout le contraire.
Les guerres ne sont pas forcément basées sur la vengeance. Elles sont surtout basées sur l'intérêt.
Exactement, les guerres aujourd'hui,
donc,
c'est un intérêt
bien
économique
sûr qu'il
pur.
Y a des pauvres gens qui sont broyés par la guerre.
Exactement.
Et qui se vengent, comme ça peut se passer en Palestine ou ailleurs, qui se vengent parce qu'ils sont détruits. déjà.
Oui,
alors,
mais vous savez...
détruire l'autre, une fois qu'on est détruit, ça leur paraît, pour eux, peu important. Ils sont déjà détruits.
Je le comprends, mais je tiens à souligner, là encore, dans le contexte de cette marche mondiale, on a vu des choses absolument gigantesques de grandeur de l'humain,
mais
et notamment
sûr,
Palestine
oui,
et Israël.
Bien sûr.
Et je voudrais raconter, parce que je sais que beaucoup d'auditeurs vont se sentir concernés, mais il y a un tronçon de la marche mondiale qui fait tout le Moyen-Orient. D'ailleurs, j'avais amené le parcours ici, et où participent les pays comme Israël, l'Égypte, le Bahreïn, Dubaï, la Jordanie, notamment avec le soutien de la reine Raina, la Palestine, je l'ai déjà dit, et la Turquie. Et donc sur ce tronçon vont avoir lieu un grand nombre de choses, du concert en passant par des conférences, des ateliers sur la non-violence, des marches évidemment. Alors quand on dit marche, hein, c'est à pied, à vélo, à patin, à roulette, à rame, à tout ce qu'on veut. Voilà. Et
des déplacements.
Des déplacements. Une très jolie initiative que je tiens à souligner, c'est sur, à Jérusalem, avec la signature du maire d'ailleurs, une place a été dédiée à la paix. Cette place a été rasée en fait, et c'est une place qui se trouve entre le quartier, un quartier juif et un quartier arabe, et que construisent des juifs et des arabes ensemble, avec une armature en fait de solide. Ils ont planté des plantes qui vont, en grandissant, former une espèce de pergola, qui d'ailleurs dessine un mandala indien, qui est aussi un symbole de paix humaniste profond, de paix profonde, d'accès au profond, et où les gens vont pouvoir venir là, justement, se reposer, prier au Dieu qu'ils voudront.
Dans oui, un, dans étant donné que ça n'est que le même qui les habite,
même, sans
d'ailleurs.
Doute, sans doute. Mais il y a aussi ceux qui ne croient pas en Dieu.
Bien sûr.
En tout cas,
enfin,
tous ceux qui puissent se trouver là, quel que soit le nom qu'ils donnent à leur Dieu, ou quel que soit le nom qu'ils donnent au profond, ou profond sacré avec lequel ils se mettent en connexion, ils auront ici un endroit de convergence. Et je trouve ça très beau comme initiative. Ça fait partie des milliers d'initiatives dont je vous parlais. Il y en a vraiment beaucoup, il y en a vraiment des milliers, mais voilà une qui est effectivement symbolique. C'est évidemment pas cette pergola qui va garantir la paix, mais c'est elle qui va être un lieu de référence que des millions de gens veulent la paix.
C'est-à-dire que le symbolique est essentiel.
Exactement.
Donc actuellement, cette marche pour la paix, elle se concrétise dans une volonté et une action. Mais les actions symboliques sont très très importantes, et que chacun prenne conscience dans sa propre vie en écoutant, en voyant Internet, parce qu'on va avancer beaucoup dans le temps, et il faudrait que vous donniez petit à petit des contacts.
Alors, pour tous
savoir,
ceux qui voudraient se joindre.
Toutes les prises de conscience sont les bienvenues, de toute façon. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un débouché intérieur, parce que tout le monde ne va pas venir, effectivement, participer à des actions peut-être très concrètes, n'en ayant pas forcément le temps, mais intérieurement peuvent soutenir. Est-ce que vous avez des actions d'unité spirituelle, je dirais, une minute ou de silence, ou 10 minutes de silence, ou des points de ralliement qui seraient des contacts invisibles.
Voilà, alors je vais maintenant venir effectivement plus à quoi vous pouvez vous joindre, et beaucoup de choses. Mais pour faire court, il y a tout un tas de... sur le site déjà, sur le site.
Il vaut mieux le dire.
Marchemondiale.fr, vous allez y retrouver, c'est pas exhaustif parce qu'on est un petit peu débordé, mais un tas d'initiatives, toutes les associations qui nous suivent, toutes les personnalités qui nous ont suivis, tout ce qui s'est passé dans le calendrier jusqu'ici, toutes les actions qui se sont développées et toutes celles à venir. Donc là, vraiment, toutes les informations possibles. Vous allez y remarquer aussi qu'il y a des associations type, je sais pas, Ligue des Droits de l'Homme, par exemple, ou Monde Sans Guerre, comme on l'a cité, mais aussi des associations spirituelles.
Chacune vont
développer leur petit
puisqu'elle
type
développe
d'action.
L'humain, elle est spirituelle.
En fait,
divin.
Quand une association adhère ou un individu, il peut développer une initiative, lui. Je vous donne un exemple. À Toulouse, un motard a adhéré et il a dit, voilà, nous on fait une marche, on va faire 1000 motards pour la paix à Toulouse.
Ah, c'est super.
Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un a adhéré qui faisait partie d'une fanfare à Clermont-Ferrand, une personne. Il a dit, moi je rallie les fanfares pour la paix. Et le 2 octobre et le 8 novembre, je vais vous dire tout de suite pourquoi pour ces dates, et bien ces fanfares vont jouer pour la paix.
J'adore les fanfares.
Un autre exemple,
ça me rappelle quand j'étais petite.
Vous parliez des femmes.
Oui, transformer la musique militaire en musique pour la paix.
Voilà.
Ça, c'est bien.
Et c'est pas beau, ça, comme symbole.
Génial, génial.
À Aubenas, l'association Merveille
Oui, je le connais en plus. Oui, en plus
on a décidé de faire marcher, physiquement marcher, 999 femmes pour la paix de Aubenas à Marseille. Et elles font un travail remarquable, comme souvent le font les femmes, mais de contact de toutes les petites municipalités, toutes les petites mairies, sont en train d'adhérer et d'accueillir ces femmes qui marchent pour la paix jusqu'à Marseille. Donc oui, c'est pour vous dire qu'un individu peut aussi lancer une idée et se faire rejoindre par les gens qui partagent sa moto, la fanfare, etc.
Bah, l'Internet, ce qui est chouette avec Internet, c'est qu'on peut facilement se rejoindre comme ça.
Il y a des moments de regroupement. Le 2 octobre, évidemment, c'est le lancement de la marche. Le monde entier va fêter ça. Voilà maintenant plusieurs années que le 2 octobre, qui est le jour anniversaire de Gandhi et qui a été déclaré journée de la non-violence par l'ONU l'année dernière, par les Nations Unies l'année dernière, par l'UNESCO l'année dernière. Le 2 octobre, on va faire partout dans le monde des symboles vivants de la non-violence avec des torches, en créant le symbole physiquement, en fait, un vrai symbole humain. Et avant cela, l'association c'est Carobio, en fait, propose à toutes les associations spirituelles de faire toute une journée de veillée, c'est-à-dire depuis le lancement à Wellington en coïncidence horaire, autrement dit en France, depuis le 1er octobre à 23h30, jusqu'à notre lancement le 2 octobre à 19h au Parvis des Droits de l'Homme. Vous ne pouvez pas trouver mieux comme symbolique. L'association Carobio, en fait, invite tout le monde à aller au mur de la paix qui est de l'autre côté de la Tour Eiffel, hein, qui est au bout de l'esplanade de la Tour Eiffel, il y a un mur de la paix.
Oui.
Et donc toute la journée, toutes les associations spirituelles, hein, qu'elles soient bouddhistes, tibétaines, toutes celles qui se reconnaissent.
Il y a les bouddhistes,
mais non seulement
Divine
Attitude, Bruno, qui va faire un très beau initiative.
Un concert de silence.
Voilà. Alors le 2 octobre, ça, c'est-à-dire venir toute la journée déposer une fleur ou faire ce qu'on veut d'ailleurs, une prière, un contact, toute la journée du 2 octobre, à commencer à 23h30 le premier, et terminer à 19h dans un grand symbole qui nous ferait tous converger au Parvis des Droits de l'Homme.
Et ça tombe quel jour, le 2 octobre?
Le 2 octobre, c'est un vendredi.
Ah ben ça tombe.
Au moins le vendredi soir, bon, le samedi matin, on travaille un peu moins.
Oui,
et sinon, la grosse date également, c'est le 8 novembre pour nous en France, parce que c'est là où l'équipe des marcheurs internationaux arrive à Paris. En tout cas, c'est une grosse date pour Paris, hein, pour Marseille et Toulouse, c'est un peu différent, mais enfin, je pense qu'on a peu d'auditeurs de cette région. Donc le 8 novembre, il y a plusieurs initiatives, notamment celle effectivement de Divine Attitude qui va faire un concert de silence avec Kremski, Daniel Kremski. J'ai un doute sur son prénom, mais le musicien Kremski qui est excellent, vraiment,
le
grand monsieur.
Voilà.
Il y a une chaîne humaine qui va traverser Paris, c'est-à-dire où les gens vont se tenir la main et on va traverser Paris depuis, si je ne m'abuse, là encore depuis la place des droits de l'homme jusqu'à la Nation, en traversant tout Paris en se tenant la main. Ce qui va créer un bazar total, mais c'est pas grave, un bon bazar pour la paix, ça vaut la peine. Voilà. Et qui va ensuite faire converger tout le monde, je pense aux Tuileries, mais là on est en attente des autorisations.
Repartir de la Nation, revenir vers les Tuileries,
c'est-à-dire, on va faire une grande chaîne humaine et après on va faire un moment de rassemblement avec tous les gens ensemble. C'est-à-dire, ceux qui sont au Trocadéro vont avoir du mal à se sentir.
Et ça, c'est accepté par la mairie de Paris ?
On est sur les autorisations. Je dois vous avouer que d'abord, c'est la préfecture qui donne et ils nous aiment bien. Ça fait maintenant d'un an qu'on se promène partout avec nos stands, nos marches, nos vélos et tout ça. Et c'est vrai qu'on a toujours été très très bien reçus. Ils nous aiment bien parce que justement on est non-violents, c'est-à-dire on s'allie pas, on détruit pas,
respectueux.
Il y a un respect qui fait
de soi et de l'environnement.
Quant à la mairie de Paris, on est en contact là, on est encore sur un prochain rendez-vous. Il faut savoir que le maire de Paris, il sera dans ces mêmes dates à Berlin où la marche mondiale sera reçue par les prix Nobel de la paix.
Mais ce que je regrette, c'est que ce soit pas le 9 novembre qui était la chute du mur de Berlin.
À Paris, les marcheurs sont le 8, 9, 10. Il faut bien qu'ils soient quelque part, hein, ils traversent le monde entier.
Le 9, c'était la chute du
9,
mur.
Mais ils seront à Berlin, c'est ce que je suis en train de vous dire.
Ça, oui.
Le groupe sera divisé en deux, le groupe des marcheurs.
Ah, très, très
parce
bien.
Que justement, ils vont être reçus à la date anniversaire du chute du mur, mais ils vont être reçus surtout par M. Gorbatchev et ainsi que 19 autres prix Nobel de la paix qui constituent depuis 8 ans maintenant le sommet des prix Nobel de la paix qui se réunit chaque année dans une ville européenne. L'année dernière, c'était Paris d'ailleurs, en novembre dernier. Cette année, c'est Berlin et donc la marche mondiale va être reçue Ainsi d'ailleurs que le fondateur du mouvement humaniste, qui est Silo, qui est quand même à l'initiative de toute cette histoire, vont être reçus par les prix Nobel et par le maire de Berlin le fameux 9 novembre. Enfin, je crois que ça va être le 10 exactement, parce que le 9, on est dans des festivités chute du mur.
Oui,
et
oui.
Le 10 commence le sommet des prix Nobel de la paix.
Je me pose souvent la question de pourquoi les prix Nobel de la paix ne prendraient pas la décision de proposer de négocier justement avec les États qui sont en guerre depuis si longtemps, parce qu'ils représentent la paix.
C'est ce qu'ils font, hein, c'est ce qu'ils font,
ah bon,
et notamment
qu'ils font.
Dans l'action réciproque qu'on a avec l'organisation fondée par Gorbatchev d'ailleurs, des prix Nobel. Il s'agit d'une fondation qui s'appelle Sommet des prix Nobel.
Ah, c'est
il y a 19
chose,
prix Nobel
oui.
de la paix qui justement se sont engagés à faire pression sur des gouvernements, à exiger des gouvernements, à expliquer avec un tas d'ingénieurs, de spécialistes, pourquoi cette paix est nécessaire. Ils sont allés plus loin l'année dernière dans la rédaction d'un manifeste qui s'appelle Manifeste pour un monde sans guerre et sans violence. Et nous, on s'est engagés, on leur a traduit, parce qu'il faut savoir que notre site international que je vais mentionner aussi est quand même traduit bénévolement en 18 langues. Et on leur a traduit leur texte, leur manifeste en 18 langues également, et on s'est engagé à le faire circuler.
À le diffuser, oui. Oui, oui.
Si
ça, c'est très important. Oui, on va bientôt devoir conclure, chère Claudie. Donc, il va falloir donner un maximum de points de contact. Là, vous avez le site de la Marche Mondiale.
Voilà, alors marchemondiale.fr, c'est très facile à se rappeler. Je recommande également le site international, parce que c'est là qu'on voit l'amplitude de cette marche. Alors, soit en anglais, theworldmarch.org, soit en espagnol marchamundial.org également. Vous arrivez de toute façon, et sinon vous tapez sur Google, Marche mondiale pour la non-violence, et vous arriverez forcément sur le site international. Pour ceux qui n'ont pas internet, l'association Monde sans guerre et sans violence, je vous en donne l'adresse, c'est 11 rue Eugène Jumain, 11 rue Eugène Jumain, dans le 19e à Paris. Vous pouvez également adresser vos dons, là, parce qu'il y a des choses qui coûtent un petit peu d'argent. En général, on s'arrange avec beaucoup de... C'est beaucoup de bénévoles. C'est que du bénévolat quant à l'engagement des gens. Mais on s'engage avec des gens qui nous prêtent ceci, qui nous donnent cela. Il y a des choses, hélas, qu'on doit payer, comme des sonos, souvent, ou des choses comme
bien
ça.
Bien sûr, il faut des moyens
dons,
financiers.
À cette même adresse, ou sur le site mondial, où on donne des kilomètres. En fait, et on peut donner 2 km, c'est 10 euros. Donc vous voyez que la participation
ah
est,
oui, on peut donner
est symbolique.
Des on peut payer des kilomètres.
Vous payez 2 km en donnant 10 euros sur le site de la Marche Mondiale.
C'est les kilomètres que les gens n'auront pas fait, mais
non,
qu'ils auront payé.
Voilà, oui, c'est-à-dire c'est
pour, faciliter.
Pour le groupe des 30 marcheurs, là, qui est quand même, comme je le disais au début, quelque chose de assez phénoménal aussi en termes de frais. Ils assurent tous leur billet d'avion personnellement. Hein, les 30 marcheurs payent eux-mêmes leur billet d'avion. Mais après, il faut les loger, les nourrir. Puis il y a des transports locaux parfois. Donc on a besoin d'un petit peu d'aide, et 10 euros ça reste symbolique là encore, sauf que si on est des millions à donner 10 euros,
ah bah oui,
il
n'y
aura
sûr.
Pas de problème. Donc ça, on peut le faire sur le site international.
Tous ceux qui ont beaucoup d'euros dans leur escarcelle, n'hésitent pas à l'ouvrir.
Voilà, donc si vous voulez donner 2
pour la radio aussi d'ailleurs,
et pour la radio
pour la soutenir, parce que
également, vous savez que vous êtes une des radios les plus qui nous a toujours soutenus, et
ben oui, bien sûr, puisque le but de cette radio, c'est justement de soutenir l'humain dans ce qu'il a de plus beau et de plus grand, on pourrait dire, mais nous sommes tout petits sur le plan matériel.
Oui, mais
ça, c'est la tâche aux racines. Il va falloir qu'on s'ancre dans la terre et que maintenant on grandisse.
C'est vrai.
Parce qu'on est dans l'esprit, on est dans le cœur, mais on manque un peu de terre.
Nous de même, mais je crois que plus on est nombreux et plus on prend de la force pour s'enraciner.
Oui,
pour
c'est ça, mais on sent la force qui vient. Oui, oui. Mais, mes chers amis, aujourd'hui, on a reçu Claudie Baudouin, qui agit et qui représente la marche mondiale pour la paix et la non-violence, que j'oubliais assez facilement. Donc je vous souhaite le meilleur et une vie douce, et à très bientôt.
Merci de nous avoir reçus.
Close to home, I cannot say. Close to home, feeling. Never right. I am lost.
IDFM, 98FM, toujours plus de proximité
pour vous.
Hello, join me, Happy Hour, tous les lundis de 18h à 19h avec Olia on IDFM, 98FM. Une émission en anglais et en français qui s'adresse à un public curieux et ouvert. Des anecdotes de voyage en France ou ailleurs et la vie quotidienne vécue par les expatriés.
Hello, c'est le Russe, sur Radio Anglais 98.